Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Entre amis, de l'ami. Voici notre troisième épisode sur l'artisanat, une fête autochtone et une légende, en collaboration avec le Winyai, notre partenaire bolivien avec qui nous échangeons sur la culture autochtone canadienne et bolivienne. Cette saison, appelée Encontrarse, qui signifie se rencontrer en espagnol, sera animée par moi-même, Vico, un métis de la nation Huron-Wendat, et je suis accompagné de ma collègue
Marie-Jeanne est née de Mastéache. Donc, chez les Autochtones, les valeurs se transmettent par les légendes de génération en génération. Pour ce dernier épisode, on a donc décidé de partager avec vous un épisode spécial. En effet, Hilda, la professeure de théâtre et directrice de l'organisme, va nous raconter une légende bolivienne. Pamela, la professeure de danse, va nous expliquer une fête autochtone. Et finalement, Yamil, la professeure de poterie, nous parlera un peu d'artisanat. Débutons avec Yamil.
Bueno, voy a hablar sobre el arte indígena.
Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'art autochtone. Nous savons tous que les conditions de vie des populations autochtones ne sont pas les meilleures. Et c'est pour cela que les femmes des premiers peuples s'organisent et s'associent entre elles pour se consacrer à produire de l'art. De cette façon, elles réussissent à réapproprier leur culture. Et en participant à plusieurs salons d'art en Bolivie, elles réussissent aussi à avoir des revenus économiques plus stables. Dans de nombreux cas, les femmes produisent des arts textiles, comme les fameux aguayos, ces tissus andins d'origine précolombienne, qui ont une énorme charge culturelle. Chaque aguayo, ces couvertures tissées traditionnellement en laine d'alpaga ou de mouton, est utilisée pour transporter des biens sur le dos. Mais chaque aguayo a une histoire à raconter, par les couleurs de ses fils, les figures qui représentent les personnages ou les expériences de leur communauté. Et donc, les femmes Huron s'organisent. Elles ne veulent pas que la nation Huron meure. Elles continuent à collecter la tola, la totora, des grandes plantes qui poussent dans le lac, et quelques graines pour tisser des beaux sacs, des chapeaux, des paniers, des boucles d'oreilles avec des motifs de musique et d'instruments autochtones, des oiseaux, des lamas en bois sculpté, etc. De plus, ces peuples travaillent avec la médecine traditionnelle millénaire, qui est aussi en fait un art, l'art de guérir le corps et l'esprit avec la puissance curative des plantes. Les Huros créent les tableaux avec des morceaux de tissu. Cette technique a été utilisée il y a longtemps, en temps de dictature, comme un moyen de garder des traces des histoires et des expériences du peuple. Les femmes roses visitent différentes villes pour vendre leurs œuvres d'art et elles rêvent de promouvoir leur communauté pour attirer le tourisme et aussi de voir le retour de leur peuple au lac. Les femmes racontent aussi l'histoire de la communauté du lac Popo selon leurs souvenirs. Elles dénoncent comment les grandes compagnies minières détournent leurs eaux pour leurs propres besoins et coupent leurs accès. Elles disent que c'est pour ça que le lac Popo s'est asséché, que c'est à cause de ces compagnies que tout est maintenant pollué. L'art autochtone est classé comme de l'artisanat. C'est une autre forme de racisme, en fait, une autre forme de racisme et de discrimination qui découle du colonialisme. Les peuples autochtones créent de leurs mains des œuvres qui sont, en fait, de véritables œuvres d'art. Les Autochtones font donc de l'art, mais avec la grande différence que, de par leur art, ils racontent leur histoire, leurs expériences, leurs coutumes, leur façon de voir le monde et d'y vivre. On peut donc dire que l'art autochtone est une forme de résistance authentique.
Merci beaucoup, Yamil. On va écouter Hilda.
Je vais vous raconter une légende que nous avons compilée autour de l'année 97 ou 99 avec un groupe de Canadiens de QSF. À partir de cette compilation de contes ancestraux, nous avons sorti un livre qui s'appelle « Je vais vous raconter » ou « Wilariskaki » en quechua. Alors, je vais vous raconter une de ces histoires que les grands-parents ont racontées ici, au Winyang. Ce conte ancestral s'appelle « Comment les aliments sont apparus sur la terre ». On dit qu'avant, avant même qu'il y avait des personnes sur terre, les animaux parlaient. Les renards, les condors, les lapins, tous les animaux parlaient. Il était donc une fois, un renard et un condor. Apprirent qu'au ciel, Dieu faisait un grand festin. Le condor était très animé pour aller à cette fête. Il a invité son ami, le renard, disant « Allons au paradis où nous mangerons et danserons. » Le renard inquiet lui répondit « Mais comment puis-je y aller si je n'ai pas d'ailes ?»« Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai, » répondit le condor. Alors le renard se mit sur le dos de son ami et ensemble, ils montèrent au ciel. Quand ils arrivèrent à la fête, ils rencontrèrent de nombreux animaux très divers qui savouraient toute la nourriture que Dieu leur avait préparée. Aussitôt, le renard mangea les riches plats de blé, de maïs, de plantes et de bien d'autres délices qu'il trouvait sur son passage. À un certain moment, Dieu interrompit la fête pour annoncer que tous les aliments qu'il voyait et appréciait seraient produits abondamment sur la terre. Alors, il dit à tous les animaux, « Le blé poussera le long de sa tige entière. Le maïs poussera sur toute sa plante. Et les moutons seront multicolores comme l'arc-en-ciel, et ils vêtiront les hommes de leur laine. » Le renard, qui était très ambitieux et qui jugeait aussi ambitieux les plans de Dieu, en se moquant, modifia les paroles du Seigneur. Alors, ce renard a dit, « Notre Dieu a dit que le blé ne pousserait que sur le bout de la branche, le maïs sur certains de ses troncs. Et les moutons seront seulement de deux couleurs. » Le condor, après avoir mangé et dansé, chercha son ami le renard et lui dit qu'il était temps de partir. Mais le renard s'amusait beaucoup et lui demanda de rester encore un peu. Le condor attendit longtemps, mais finalement, il en eut assez et, prenant son envol, il cria « On dirait que tu ne finiras jamais la fête. » Après plusieurs heures, le renard se rendit compte que son ami l'avait quitté. Il se mit à pleurer parce qu'il ne pouvait pas retourner sur la terre et rentrer chez lui. Alors la colombe, qui était aussi à la fête, lui dit « Ne pleure pas. Tu ferais mieux de tisser une corde avec cette paille pour que tu puisses retourner à la terre. » Le renard suivit ses instructions et se mit à tricoter. La corde pendait du ciel jusqu'à la terre et le renard commença à descendre. En descendant, il vit un troupeau de perroquets voler très vite, sauf un qui battait lentement de ses ailes. Le renard trouva la situation très amusante et se moqua. « Ha ha! Tu es lent et tu ne pourras jamais voler comme les autres amis. Écoute, moi-même qui n'ai pas d'ailes, je peux voler. Ne me dérange pas ou je coupe la corde, » dit le perroquet très en colère. « Pardon. » « Je ne me moquerai plus, » dit le renard. Mais quelques mètres plus loin, il revient voir le perroquet et le contraria de nouveau. « Ha ha, tu es lent et tu ne pourras jamais voler comme tes autres amis. » Très en colère, le perroquet picota la corde pour la couper. Tandis que le renard, craignant de tomber, criait « Aidez-moi, posez quelque chose de mou pour briser ma chute. » Son cri fut si fort qu'il fut entendu jusqu'au creux du plus profond de la terre, où il y avait un petit animal qui, pressé de sortir et voulant aider le renard, posa un tas de pierres pour qu'il puisse tomber dessus. Et il est tombé, explosant et laissant partout la nourriture qu'il avait mangée du ciel. Le renard est mort, en répandant la nourriture qui grandira ensuite abondamment sur la terre. Cependant, c'est grâce à lui, grâce à son mensonge, que le blé ne pousse que sur le bout de la branche, le maïs sur l'un de ses troncs, et les moutons ne sont que blancs ou noirs. Ceci est la légende que nos grands-parents nous racontaient, et qu'ils continuent de raconter, surtout chez les peuples Quechuan et Aymara. J'espère que ça vous a plu.
Wow! Merci d'avoir partagé cette magnifique légende, Hilda. Passons à notre dernière invitée, Pamela.
Aujourd'hui, je vais vous partager un peu de l'histoire de la fête de l'Arete Iguazú. C'est en fait aussi le nom d'une danse, une quadrille que moi j'ai préparée pour le festival du Winyai cette année. Cette danse, en fait, je l'ai nommée pour la célébration de l'Arete Guazu parce que j'ai incorporé différents personnages de cette fête et aussi des représentations des coutumes et des traditions de la célébration. Bon, la fête de l'Arete Guazu, qui est aussi en fait connue comme la grande fête du peuple Guarani, est une célébration sacrée du peuple Guarani. Ce peuple, les Guarani, vit entre les territoires ancestraux du Chaco sud-américain, donc entre la région du Chaco central du Paraguay, du sud de la Bolivie et du nord-est de l'Argentine. Donc, cette fête est célébrée dans toutes ces trois régions. Dans le passé, cette célébration s'est déroulée au moment de la récolte, mais seulement si la communauté avait une récolte abondante. Maintenant, la fête a lieu pendant la période du carnaval parce que le mode de vie du peuple Guarani a changé à travers les années. Ils ne vivent plus comme avant, en cultivant la terre, mais ils se sont déplacés vers les centres urbains de la région. Donc, le peuple Guarani, et aussi ses célébrations, s'est adapté à un nouveau calendrier établi par les communautés. L'Arete Guazu est un genre de rencontre entre les ancêtres, les morts, les vivants. Les préparatifs de cette fête débutent pendant le mois de janvier et les festivités ont lieu au mois de février. Les gens qui se rassemblent donnent tous des remerciements pour la bonne récolte et demandent aussi qu'elle se poursuive l'année suivante. Pendant les jours de célébration, ils rendent aussi hommage à l'esprit des ancêtres afin que la récolte soit bonne. Lors de la célébration de l'Arete Guazu, il y a aussi plusieurs représentations symboliques. L'une d'elles est le combat entre le taureau et le tigre. Le taureau représente les Espagnols et le tigre représente l'homme guarani. Dans ce spectacle, le tigre finit toujours par gagner parce que c'est lui qui a conquis les Espagnols. Cette fête est ouverte à tous, même aux visiteurs venant d'autres communautés. Les personnes qui viennent avec joie pour partager à cette fête sont invitées à participer. Cette fête nécessite au moins 8 jours de préparation. Les atiqueros, comme on appelle les musiciens, visitent chacune des maisons où se prépare la kawi, la chicha, cette boisson de maïs fermenté qui est traditionnellement servie lors de cette fête. Les fêteurs déterrent l'offrande cérémonielle qui a été enterrée l'année précédente, tout en donnant des boissons et d'autres offrandes au kawi, ce qui est le lieu sacré où l'offrande est enterrée avant d'enterrer une nouvelle offrande pour l'année suivante. Dans ce lieu sacré, ils dansent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison de la famille qui les a invités. La musique de l'Arete Guazu, qui est appelée le pin-pin, est jouée par des flûtes, appelées le tingoyo ou la kena, ainsi que l'anga guazu, qui est un grand tambour. Ces instruments sont très caractéristiques de la région et sont joués pendant le festival. Au festival, il y a toujours une personne qui porte la croix en avant, une croix décorée de fleurs et aussi de divers légumes typiques de la région. Cette personne en avant représente l'esprit de nos ancêtres. Généralement, cette croix avec les fleurs dirige les groupes de fêteurs. Chaque groupe peut décorer sa propre croix pour la représenter pendant le festival. C'est pendant cette cérémonie que les femmes vêtues de la tipoy, la robe de couleur vive qui représente leur joie, dansent avec les hommes au son du pin-pin. La robe ou le tipoy des femmes a un détail bien particulier, celui des nombreux rubans colorés. Comme on dit, les couleurs représentent la joie. Mais aussi, les rubans représentent les années où cette robe a été utilisée. C'est une robe héréditaire. Elle est passée de génération en génération. Par exemple, si ma mère portait sa robe et participait à la fête de l'Arete Guazu, elle me l'offrirait ensuite. Donc, moi-même, dans les années suivantes, j'utilise la même robe et j'ajoute un ruban comme symbole de ma participation. Et ensuite, je le donne à ma fille et ma fille la donne plus tard à sa fille. Et chaque fois qu'elle est portée, un autre ruban est ajouté. Il s'accumule. À la fin, quand la robe atteint sa limite, on se rend compte combien de fois ces femmes ont porté cette même robe. Pendant cette fête, tout le monde porte un masque. Ces masques représentent les ancêtres, les morts. La tradition dit qu'à la fin du festival l'Arete Guazu, Il ne doit plus y avoir de masque dans les maisons parce qu'il pourrait apporter une maladie chez la famille. C'est ça la croyance des peuples Guarani. C'est pourquoi, quand la fête se termine, ils doivent tous être jetés dans la rivière. Vraiment tout. Même si les masques coûtent cher, et souvent, oui, coûtent très cher, mais ils sont quand même tous jetés dans la rivière. De cette façon, l'eau de la rivière emporte tout. De même, les gens doivent aussi se mettre à l'eau pour nettoyer leur corps et nettoyer toutes les impuretés. Et puis, on prépare le repas pour terminer la fête de la Rete Guasu jusqu'à l'année suivante.
Merci beaucoup à Pamela et à nos autres invités de leur partage. On espère que vous avez apprécié autant qu'on l'a fait.
En cette fin de série de podcasts, nous tenons à remercier le Wignay pour leur excellente participation et leur partage de connaissances. Merci à ceux et à celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. On vous invite à aller écouter les épisodes précédents et suivre l'année sur les différents réseaux sociaux.
Merci beaucoup, au revoir!